Lionel nous a emmenés à la montagne. Il fait chaud et ça nous a fait du bien. Ce matin, moi, je voudrais vous amener au bord d'un lac. Ça nous fera aussi du bien, je l'espère. Mais pour introduire, je voudrais simplement lire quelques versets, ou plutôt un verset, dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, un verset bien connu, c'est Jésus qui parle. « Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il était une fois, là c'est la formule magique, il était une fois dans un village de Galilée un enfant qui voulait voir Jésus. Dans son village et même dans toute la région, il n'est question que de ce charpentier de Nazareth qui parle d'une manière extraordinaire et qui en plus accomplit des prodiges à peine croyables. Et voilà qu'un beau matin, une nouvelle se répand dans le village comme une traînée de poudre. Jésus, le charpentier de Nazareth, celui qui fait ses miracles extraordinaires, est arrivé avec d'autres hommes pas très loin d'ici, enfin, à 2 heures de marche tout de même, il faut y aller, au bord du Jourdain et au bord du lac, près de Bethsaïda. Notre jeune garçon est convaincu que c'est le moment ou jamais, s'il veut voir Jésus. Il se précipite chez lui rapidement, il entasse dans un petit sac quelques provisions pour la route, au sein pain, d'orge et 2 poissons. Et le voilà en chemin, avec une bonne partie du village, et après 2 heures de marche, ils arrivent en vue d'une plage. Et là, une foule immense, bruyante, bigarrée, est assemblée. Des gens arrivent de toutes parts. Ça a été un spectacle magnifique pour ce gamin. Mais tout à coup, cette foule se tait. Un grand silence se fait, comme par magie. En effet, une barque vient d'arriver. Et un homme sort de cette barque, suivi par quelques compagnons. Notre jeune garçon, tout heureux, comprend que c'est Jésus. C'est Jésus qui arrive. Et on voit Jésus qui contemple cette foule. Et on voit sur son visage une expression de pitié, de compassion. Et là, il commence à parler. Il commence à parler et tous sont suspendus à ses lèvres. Et Jésus parle longtemps. Il parle longtemps, longtemps. Tellement longtemps que personne n'a vu passer le temps. J'espère que ce sera la même chose pour moi ce matin. En fait, la journée est maintenant bien avancée et notre jeune garçon, lui, il commence à avoir sérieusement faim. Il a son estomac qui rouspète, qui crie famine. Alors, il s'apprête tranquillement à dévorer ce qu'il a apporté, ses victuailles. Mais avant qu'il ait pu entamer la première bouchée, voilà un des compagnons de Jésus qui vient lui demander de donner au maître ses 5 pains et ses 2 poissons à lui. Et là, notre gamin est un peu décontenancé. Je ne sais pas s'il est déçu, mais il est un peu décontenancé. En fait, il est venu pour recevoir quelque chose de Jésus. Et voilà que c'est lui qui doit donner à Jésus. En tout cas, je pense que ce gamin, même quand il sera devenu un vieux comme moi, se souviendra de ces 5 pains et de ces 2 poissons qu'il a donnés à Jésus. Excusez-moi. Mais revenons un peu en arrière pour situer. Les 12 disciples avaient été envoyés en mission par Jésus. Ils reviennent tout heureux. Ils veulent raconter à Jésus tout ce qui s'est passé. Mais ils sont fatigués, bien entendu. Ils ont besoin de repos, ils ont besoin de souffler un peu, ils ont besoin de tranquillité, à l'écart de toute agitation. Et Jésus les invite à partir de là pour trouver un peu de repos, dans un endroit tranquille. Et les voilà partis au bord de leur barque pour ce lieu désert et tranquille. Mais des gens les ont vus partir. Et comme la notoriété de Jésus était grande, la tranquillité va être de courte durée. Les gens accourent de toutes parts. Lisons ce que nous dit Marc au chapitre 6, les versets 30 à 44. Marc, qui dans sa sobriété raconte cet épisode de la vie de Jésus. Quand il descendit du bateau, il vit une grande foule. Il en fut ému parce qu'ils étaient comme des moutons qui n'ont pas de berger. Il se mit à leur enseigner quantité de choses. Comme l'heure était déjà tardive, ses disciples vinrent lui dire « Ce lieu est désert et l'heure est déjà tardive, renvoie-les pour qu'ils aillent s'acheter de quoi manger dans les hameaux et dans les villages des environs. » Mais il leur répondit, écoutez bien, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui disent, « Irions-nous acheter 200 deniers de pain pour leur donner à manger ?» Il leur demande, « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Après s'être informé, ils répondirent, « 5 et 2 poissons. » Alors, il ordonna de les installer tous en groupe sur l'herbe verte, et ils s'installèrent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la bénédiction. Puis, il rompit les pains et se mit à les donner à ses disciples pour qu'ils les distribuent. Ils partagèrent aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers de morceaux de pain et de poisson. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5 000 hommes. Jésus, clairement, n'a pas tenu compte du temps qui passe. Ce n'était pas sa priorité. Ce qui était sa priorité, ce qui comptait pour lui, c'est cette foule qui est là comme des brebis sans berger. Par contre, les disciples, eux, ils commencent à être angoissés parce qu'ils ont vu le temps qui passe. Il va peut-être faire nuit bientôt et il y a ces 5 000 personnes là. Ils sont anxieux, ils se demandent qu'est-ce qu'il faut faire. L'heure du repas est dépassée depuis longtemps. Alors il propose à Jésus de vite renvoyer tout le monde chez soi. Car l'endroit est peut-être propice au repos, mais c'est un désert. Et là, le texte est très sobre. Pour toute réponse à leurs préoccupations, Jésus demande à ses disciples, abasourdis, de leur donner eux-mêmes à manger à ces 5 000 personnes-là. Donnez-leur vous-même à manger. Et là, chers amis, moi, je dois reconnaître que la solution des disciples est beaucoup plus raisonnable que celle de Jésus. donner à manger à 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, il ne va pas rester grand-chose. La solution est beaucoup plus raisonnable. Les renvoyer pour que chacun puisse rentrer chez lui. Alors c'est vrai, nous qui sommes tellement spirituels, nous pensons qu'une fois de plus, les disciples manquent de foi et qu'ils proposent, eux, la solution de facilité. Mais que faire face à cette foule si nombreuse? Comment répondre à ses besoins? Non, ce n'est pas la solution de facilité. C'est une solution raisonnable, pleine de sagesse. Renvoie ces gens pour qu'ils aillent chercher de quoi se nourrir. Mais Jésus dépasse ce qui est raisonnable. Jésus dépasse ce qui est sage. Et il n'est pas d'accord avec eux. Donnez-leur vous-même à manger. J'insiste là-dessus, chers amis, parce que je voudrais que nous entendions ce que dit Jésus. Donnez-leur vous-même à manger. Alors, comment les disciples ont-ils reçu cet ordre ? Leur donner nous-mêmes à manger, mais il y a 5000 personnes. Et puis, où nous procurer cette nourriture ? D'où sortirions-nous l'argent ? Et alors là, Jésus leur donne encore un autre ordre qui leur semble encore plus bizarre. Combien avez-vous de pain et de poissons ? Allez voir. Et ici, j'imagine, je suppose, je présume que les disciples ont dû douter et se dire, est-ce que le maître est dans son état normal ? Nous avons peut-être quelques pains et ces 2 poissons, mais pensait-il nourrir cette foule avec ça ? Chacun n'aura que le centième du quart d'un millième d'une miette. Là, c'est certain, les disciples sont déconcertés. Ils sont dans le brouillard. André, frère de Pierre, essaye de démontrer à Jésus ce qui lui paraît déraisonnable dans sa demande. Je dis à Jésus, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est cela que pour toute cette foule, pour tout ce monde ? Pardon. C'est Jean au chapitre 6, dans les versets 1 à 9, qui évoque ce jeune garçon dont j'ai tenté, je le confesse, de mettre un peu de corps à son histoire. J'ai inventé. Bon. Voilà. Mais ce qui est sûr, ce que dit le texte, c'est bien qu'il n'a que 5 pains et 2 poissons, et que c'est pour lui. Et ces 5 pains et ces 2 poissons, c'est une nourriture de pauvres. Ce sont des pains d'orge, le texte le souligne. Ça, je ne l'invente pas, ce sont des pains d'orge. Cette nourriture, comme je le disais, elle est pour lui. Il l'a apportée pour lui. Lui a prévu, certainement sa maman, hein, je pense que les mamans sont comme ça. Lui, il partait et sa maman lui disait, attends, petit, il faut que tu aies de quoi manger. Et voilà que maintenant, on vient lui demander de tout donner à Jésus. Alors le texte ne dit rien sur la réaction de cet enfant. Mais ce qui me semble évident, c'est qu'il a donné de bon cœur ce qu'il avait. Car je vois mal les disciples obliger cet enfant, lui prendre de force. Oh non, donnez-moi ces pains. Non, je ne crois pas. Et je vois encore moins Jésus accepter un don qui n'aurait pas été fait de bon cœur. Et maintenant, ce gamin, ce petit qui avait 5 pains et 2 poissons, rien quoi, il voit ses 5 pains et ses 2 poissons devenir dans les mains de Jésus la nourriture pour cette foule. Ce petit voit ses cinq pains à lui et ses deux poissons devenir la nourriture pour toute cette foule. Oui, comme je le disais, le souvenir de ses cinq pains et ses deux poissons restera longtemps gravé dans sa mémoire. Alors, il faut bien tirer des leçons de tout cela. Alors, dans ce texte de la multiplication des pains, il y a beaucoup de leçons. Je m'arrêterai sur deux. J'en relèverai deux. La première. Nous voyons ici comment le don le plus modeste dans les mains de Jésus se transforme et devient une nourriture pour 5000 personnes, d'une valeur marchande insignifiante, des pains d'orge, nourriture de pauvres. Ces pains d'orge et ces deux poissons prennent entre les mains de Jésus une valeur inestimable. Ce don des plus modestes, le Seigneur le reçoit et il lui donne une valeur que rien ne peut surpasser. Vous savez, chers amis, j'aime beaucoup ce récit à cause de ça, justement. Il fait éclater la richesse de l'amour du Seigneur qui transforme nos plus petits dons, nos mouvements les plus petits vers lui, même les mouvements les plus insignifiants. Il les transforme en riche bénédiction. Il multiplie le peu que nous avons, et nous avons peu, c'est vrai, que ce que nous représentons, nous, ici, par rapport à la ville de Nîmes. Voilà, quelques 150 ou 200 personnes, c'est rien du tout. Mais il y a des gens, parce que la bonne nouvelle est annoncée, il y a des gens qui se convertissent. Il y a des gens qui passent de la mort à la vie. Quel don, quelle richesse. Il multiplie le peu que nous lui donnons, comme le fait cet enfant, sans rien retenir. Des fois, nous sommes confrontés à des situations, ça nous est arrivé à Madagascar, il y avait un tel besoin qu'on se disait, mais que faire? Ce que nous pouvons faire, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Pierre soulignait dimanche dernier que pour cette étoile de mer qui a été rejetée à la mer, celle-là, elle était vivante, effectivement. Mais quelquefois, nous sommes dépassés. Nous disons, nous ne pouvons rien faire. Qu'est-ce que cela fasse à tant de besoins? Une goutte d'eau. Et pourtant, cette goutte d'eau, cette petite goutte d'eau, si elle est donnée au Christ, elle devient une source abondante de vie jaillissante. Alors, je ne suis pas ici en train de dire que nos vies doivent être faites tous les jours, continuellement, d'événements extraordinaires, merveilleux, phénoménaux. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est dans le banal de notre quotidien que le Seigneur agit. Pourvu que nous lui soyons fidèles, pourvu que nous lui soyons confiants, motivés par son amour, conduits par son esprit dans l'obéissance. Autrement dit, pourvu que nous lui restions attachés. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Seigneur bénit richement chacun de nos petits élans. Il multiplie jusqu'au centuple tout ce que ses enfants peuvent donner. Pas grand-chose, mais il le fait d'une manière extraordinaire, d'une générosité qui nous laisse, complètement abasourdis, nous-mêmes. Ce jeune garçon aurait été bien étonné le matin de ce jour mémorable si on lui avait dit que grâce à ses cinq pains et ses deux poissons, qu'il avait probablement pêché lui-même, toute une foule immense serait nourri. C'est à nous qu'il appartient de donner au Seigneur le peu que nous avons chaque jour, quotidiennement, de bon cœur, temps, argent, travail, témoignage. C'est à nous que cela appartient. J'en arrive à ma seconde leçon, qui est une autre magnifique leçon que cette histoire souligne. C'est qu'elle souligne l'importance de la confiance et de l'obéissance. L'importance de la confiance et de l'obéissance. Vous savez, je me pose une question. Est-ce que ce grand miracle aurait eu lieu si les disciples n'avaient pas obéi à l'ordre de Jésus ? Est-ce qu'ils avaient dit à Jésus, écoute, Seigneur, on est fatigué, bon, viens te reposer, tu as besoin de repos, voilà. Est-ce que ce grand miracle aurait eu lieu s'ils n'avaient pas obéi à cet ordre bizarre, hein, incompréhensible ? Jean, lorsqu'il rapporte le récit du miracle, lève un peu le voile. Ce qui nous permet à nous de comprendre un peu mieux. Mais comme je le disais tout à l'heure, les disciples, eux, ils étaient dans le brouillard. Jean, en effet, nous révèle l'intention de Jésus. En réalité, nous dit-il, c'est pour voir ce qu'allait lui répondre Philippe et peut-être les autres disciples, car le Seigneur savait, lui, ce qu'il allait faire. Ce que nous dit Jean ici, c'est que le Seigneur, à cette occasion, veut fortifier et enrichir la foi et la confiance de ses disciples. Excusez-moi, c'est la chaleur. Le Seigneur, ici, veut enrichir la foi et la confiance de ses disciples. Le Seigneur veut aider les siens à trouver dans cette occasion bien concrète le vrai réflexe de la foi et de la confiance. La confiance absolue, car ce qu'il leur demande, voilà, c'est complètement déraisonnable, comme on le disait tout à l'heure. Je me demande, chers amis, si dans cette affaire, je me pose beaucoup de questions, je me demande si dans cette affaire, le plus grand miracle, ce n'est pas la multiplication des pains, mais le plus grand miracle, c'est peut-être la foi des disciples qui s'est manifestée dans l'obéissance à cet ordre déraisonnable, nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Ça, c'est moi, hein. Certainement que Pierre va me gronder et Lionel va me taper dessus, mais voilà. Jésus aurait très bien pu faire ce grand miracle tout seul. Mais nous voyons ici comment il a voulu impliquer les siens. Nous voyons ici comment il a voulu complètement associer les disciples à son action. Il veut qu'ils prennent l'initiative. Il les laisse prendre conscience du besoin. Il les laisse formuler ce besoin. Il veut aussi qu'ils cherchent leur réponse à eux, avec leurs moyens, à eux. Ensuite, il agira. Il savait déjà ce qu'il allait faire, nous dit Jean. Mais il veut le faire avec eux. Il veut le faire par eux. Il ne veut pas le faire sans eux. Parce que c'est eux, ensuite, qui vont distribuer les vivres à toute cette foule à partir de 5 pains et 2 poissons. Je pense que le plus dur, c'est dû être de commencer. Comment ne pas avoir l'air ridicule avec ces simpins de poissons, ces provisions insignifiantes qui sont quand même passées entre les mains de Jésus, pour le souligner. Comment elle ne pas être ridicule avec ces provisions insignifiantes devant ses besoins extraordinaires. Ils ont accepté le défi. Ils ont fait confiance et c'est au travers de leur obéissance et de leur confiance que Jésus va agir. Et chers amis, je crois que dans cet épisode, nous avons un bel exemple de la collaboration que le Seigneur attend de son Église aujourd'hui. Le Seigneur peut faire des choses extraordinaires tout seul, il n'a pas besoin de nous. Mais il ne veut pas le faire sans nous. Je crois en effet profondément qu'il agit pareil avec son Église aujourd'hui. Gardons vraiment en mémoire que le Seigneur veut nous associer pleinement à son œuvre. Il me semble important que nous puissions bien intégrer cet aspect de sa volonté. Il nous veut ouvriers avec lui. Aurons-nous assez de foi et de confiance en lui? En lui qui nous honore de sa confiance et qui nous donne une telle dignité, être ouvrier avec lui. Je crois que les disciples nous donnent dans ce passage un exemple magnifique de cette confiance que le Seigneur attend de chacun de ses enfants. C'est par l'Église que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui la sagesse infiniment variée de Dieu, nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 3, 10. C'est par l'Église que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui la sagesse infiniment variée de Dieu. Je termine. Donc, aujourd'hui et maintenant, il œuvre dans nos cœurs par son esprit. Et il attend que nous lui donnions nos cinq pains et nos deux poissons. Il attend que nous lui donnions toute notre confiance, non seulement en parole, mais aussi en acte, dans l'obéissance, dans la reconnaissance et l'amour. Peut-être que lorsque nous serons auprès du Seigneur, nous serons surpris d'apprendre qu'un sourire, une parole d'encouragement, une heure de notre temps ont pu avoir des conséquences insoupçonnées et éternelles, parce que nous les lui avons données. Nous verrons alors comment il a transformé, comment il a multiplié, comment il a enrichi, comment il a béni nos faibles élans, nos petites tentatives. Nous verrons comment entre ses mains, une heure de temps qui lui a été donnée est devenue éternité. Qu'il nous aide, chers amis, qu'il nous aide à ne jamais lui refuser cette heure qu'il nous demande, car le chemin peut être parfois difficile et les tentations très subtiles. Amen.